Et on va donc retrouver Renault pour son pari le plus récent, qui est celui de la voiture électrique. Alors, j'ai déjà commencé à parler un peu hein, de l'innovation de rupture. Je l'avais même déjà évoqué au moment où on avait parlé de ce fameux exemple des disques durs. Hein. Mais finalement, quelque part, la voiture électrique, c'est aussi un autre exemple. Alors, si je reprends le fil de l'histoire de. Enfin, si je reprends Renault là où on l'avait laissé, hein, vous vous souvenez, ils ont sorti plein de monospaces, dont Via Matra, ce coupé-space original. Bon, après, le relatif échec, oui, quasi-échec de Velsatis, plus l'échec très clair de l'Avantime, c'est vrai que chez Renault, on prend un peu plus de recul par rapport au côté. Pour réussir, il suffit de faire des voitures extrêmement originales. Néanmoins, un peu plus tard, hein, il s'écoule quelques années pendant lesquelles ils vont surtout faire de la rationalisation, beaucoup capitaliser sur l'alliance avec Nissan. Et puis, aux alentours de 2010, 2009-2010, ils vont faire le pari que va y avoir un décollage des ventes de la voiture électrique. Évidemment, maintenant, c'est plus très original hein, d'investir un peu massivement dans la voiture électrique, puisque de toute façon, les fabricants de voitures s'y dépassent un certain nombre de, en moyenne, de grammes par véhicule. D'émissions de CO2, bien, ils payent des amendes importantes. Et donc, du coup, c'est pour ça hein, qu'ils font de la pub essentiellement pour leurs voitures électriques et hybrides, notamment rechargeables. C'est parce que ils ont besoin de pousser cette partie-là pour pouvoir continuer à vendre des voitures qui, par ailleurs, dépassent largement la moyenne. Et puis parce qu'il y a cet horizon où normalement en 2035 ils pourront plus vendre de voitures à moteur thermique. Et donc maintenant c'est plus original. Mais par contre, au tout début des années 2010, Renault n'était pas le seul à travailler bien sûr sur la voiture électrique, mais c'était les seuls à y consacrer une part quand même très significatif de leurs dépenses de R&D. C'était marginal chez les autres et chez eux, alors ce n'est pas des chiffres, d'une part, ce n'est pas des chiffres forcément que les constructeurs publient, hein, et puis d'autre part, il y a quand même parfois des choses qui peuvent servir à la fois à l'électrique et au thermique, hein. Il n'y a pas que les moteurs dans la R&D, donc. Mais en tout cas, c'était très nettement au-dessus. Et c'est resté pendant très longtemps très nettement au-dessus des autres. Alors c'était un vrai pari, hein, c'est pour ça que le titre c'est Le pari de la voiture électrique, puisque l'idée derrière c'est les conditions sont réunies pour que ça décolle. Donc vous voyez c'est un peu le même raisonnement que ce qui a fait décoller la photo numérique. C'est un peu, ils ont eu un raisonnement en disant voilà, en gros les planètes s'alignent. Pour un décollage des ventes. D'abord parce que la voiture électrique répond à des problématiques qui deviennent de plus en plus d'actualité. Donc il y a bien sûr la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Ça fait quand même un moment que c'est sur le devant de la scène, même si on ressent beaucoup plus maintenant les effets concrets du réchauffement climatique, si bien qu'il y a un peu un côté oulala, faut qu'on se dépêche. Mais puis il y a aussi la pollution des villes, hein, avec souvent des restrictions provisoires dès qu'il y a 15 jours de beau temps à Paris, hop, on dépasse les seuils et on met en place de la circulation alternée ou ce genre de choses. Donc voilà, la voiture électrique, c'est aussi une réponse à ça. D'un point de vue du point de vue des pratiques, des habitudes culturelles, finalement, la grande majorité des trajets faits en voiture sont des petits trajets, donc le fait que les voitures électriques aient des autonomies plus réduites, surtout à l'époque, hein, bah, n'est pas censé être un problème dans ces cas-là. Ça ne veut pas dire que, à l'époque, ils ne font pas le pari que la voiture électrique va remplacer la voiture thermique, hein. Ils font, le pari que ça va devenir, un segment important. C'est pas la même chose. Et puis, alors évidemment, un des grands points qui pouvait leur être répliqué un petit peu, c'est le fait que ben, ça faisait pas mal de fois que l'on prédisait le décollage de la voiture électrique et qu'il n'arrivait pas. La première fois, c'était plus d'un siècle avant, où au début du XXe siècle, vers les années 1905, il y avait des spécialistes qui pensaient que la voiture électrique allait l'emporter sur la voiture à essence. Donc, et puis après, bah, on en a réentendu parler un peu quand on a commencé à parler de la future raréfaction du pétrole dans les années 60. On a vu réémerger un peu quelques voitures électriques lors des chocs pétroliers. Après, on en a vu réémerger dans les années 80, puis début des années 90, et à chaque fois, ça a été des échecs. D'ailleurs, il y a un collègue de l'ESSEC, je ne me souviens plus si c'était l'ESCP ou l'ESSEC, c'est l'ESSEC, lui, je crois, qui avait fait un article à l'époque, présenté en conférence, donc en 2000, et qui avait, je vous le mettrai, hein, parce qu'il est en plus très facile à lire, il y a très peu de théorie. Beaucoup de chiffres sur les décollages successifs, enfin les non-décollages successifs, mais les prévisions où à chaque fois, d'ailleurs c'est assez amusant, à chaque fois on prévoit un horizon de 10 ans, bah, que la part de marché de la voiture électrique serait autour de 10 ou 15%. Et c'est à peu près les prévisions que faisait Renault. Donc ça a un côté un peu. Et du coup, bah, il qualifiait la voiture électrique de technologie éternelle. Éternellement émergente. Donc, bah, du coup, dans ce contexte-là, dire bah, je mets 15% de mes dépenses de R&D sur la voiture électrique parce que cette fois, c'est la bonne, c'est quand même osé. Mais eux, ils considèrent que les échecs précédents s'expliquent. Ils s'expliquent parce qu'on avait essayé de mettre des moteurs électriques dans des voitures qui n'étaient pas conçues pour ça. Du coup, elles n'étaient pas du tout optimisées. D'où le fait qu'ils vont rentrer, enfin qu'ils vont lancer un premier modèle populaire de voiture conçue dès le départ pour être uniquement électrique, la Zoé. Et puis d'autre part, ils vont considérer que maintenant il est temps de raisonner en termes de système global et non pas juste de voiture, c'est-à-dire bah, de mettre en place le système de recharge, sachant qu'à l'époque, par exemple, ils avaient envisagé un partenariat avec une entreprise israélienne qui proposait des systèmes de remplacement rapide de la batterie. C'est-à-dire comme on considérait que bah, l'autonomie était quand même très limitée et que bah, ça pouvait être un vrai obstacle. Parce que pour les trajets quotidiens, ils sont courts, mais de temps en temps, on part en vacances et on peut prendre sa voiture, et du coup, bah là, on est un peu coincé, on n'a pas envie de faire 150 km, puis de s'arrêter, puis de devoir attendre une heure ou une heure et demie que la voiture se recharge suffisamment, puis ensuite faire 100 km, parce que là, de toute façon, on ne l'a pas rechargée à fond, et donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, bah, il prévoyait de mettre en place tout un réseau de systèmes de rechange, de changement de batterie. Hein, donc, au lieu de la recharger, on la changeait. Et donc, vous mettez une batterie toute neuve, enfin rechargée en tout cas, sur votre voiture. Après, bah, pour que de telles stations soient rentables, bah, il fallait qu'il y ait suffisamment de voitures électriques en circulation, sinon ça n'a jamais vraiment décollé. Mais puis, techniquement, apparemment, ce n'était pas si simple. Donc, ils ont abandonné ça, mais c'est simplement pour vous donner un exemple du type de réflexion qu'il y avait, hein, pour dire, ben voilà, en fait, on va résoudre les différents, enfin, on va faire sauter les différents freins à l'achat de la voiture électrique, et du coup, ben, le syndrome de l'éternel échec de la voiture électrique ne va pas se reproduire cette fois. Et puis, bah, y compris des réflexions où là, ça sort de ce que Renault seul peut faire. Et c'est d'ailleurs là aussi, c'est probablement pour ça que ça n'a pas, à ma connaissance, énormément avancé depuis. Parce que ça, c'est des réflexions quand même qui datent d'il y a une quinzaine d'années maintenant presque. Hein. C'est les fameux smart grids, hein, vous savez, c'est les réseaux intelligents de distribution d'électricité. Sachant que l'un des raisonnements chez Renault, c'était de dire. Finalement, l'une des grandes problématiques qu'on va avoir, il va falloir développer les énergies renouvelables, hein, puisque justement, on veut réduire les émissions de dioxyde de carbone. Il faut évidemment pas alimenter nos voitures électriques avec des nouvelles centrales à charbon. Mais le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont pas stables. Des fois, il y a du vent, des fois, il y en a pas. Et puis, le soleil, la nuit, ça marche beaucoup moins bien. Du coup, l'une des grandes problématiques des électriciens avec les énergies renouvelables, c'est bah, comment les stocker. Et du coup, bah, l'un des raisonnements, c'était de dire, bah, imaginons qu'il y ait des millions de voitures électriques, bah, ça veut dire qu'il y a des millions de batteries potentiellement à disposition. Et que donc, si à un moment donné, bah, il y a pas de besoin d'électricité très important, bah, évidemment, on va recharger les voitures. Mais si à un moment donné, au contraire, on a un manque de production sur le réseau, eh ben, on va pouvoir inverser le flux et prendre dans les batteries des voitures qui sont branchées l'électricité qui manque. Alors ça, vous vous doutez bien que... Ça se fait pas, enfin c'est tout un système, donc ça on change pas comme ça. Je sais pas même pas si ce sera mis en place un jour, mais en tout cas, intellectuellement c'est intéressant. Donc voilà, il y avait toute une réflexion. Alors je pourrais vous mettre aussi une présentation d'un des justement qui avait été faite à l'école des mines par un des dirigeants de Renault et qui présente sa vision de la voiture électrique, mais ça date d'il y a longtemps et c'est assez intéressant. Alors, ceci étant, il y a des freins potentiellement importants, on l'a compris, puisque je vous ai dit que. Bah, l'un des points sur lesquels a joué Renault, c'est d'essayer de faire sauter certains de ses freins. Et ce qui est vrai, c'est que d'une façon générale, les innovations vont accentuer. Il y a toujours des freins à l'achat pour n'importe quel produit, n'importe quel service. Et les innovations, surtout les innovations radicales, plus elles sont radicales et plus ça va être vrai, vont avoir tendance à les accentuer. Alors du coup, c'est l'occasion de faire une petite parenthèse théorique sur les freins à l'achat. En marketing, on considère que très basiquement, les deux freins principaux à l'achat, c'est tout simplement le coût et le risque. Alors dit comme ça, c'est effectivement très simple. Là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à voir, à creuser quel coût, quel risque. Et ce que l'on va voir, c'est que sur chacun de ces types de coûts et sur chacun de ces types de risques, bah, l'innovation a tendance à les accentuer. Donc d'abord, bah, qui dit coût dit tout simplement le prix d'acquisition, hein, du produit ou du service. Et même si je vous ai donné des exceptions tout à l'heure en disant que certaines innovations de rupture arrivaient sur le marché avec des produits de moins bonne qualité mais moins chers, c'est vrai que le cycle le plus habituel en matière d'innovation, c'est vous arrivez avec un produit avec des performances supérieures à celles des produits du marché mais plus chères. Donc, le plus souvent, le prix au départ est élevé. Ensuite, le coût de passage d'une technologie à une autre n'est pas simplement le prix d'achat. C'est-à-dire que très souvent, vous allez devoir acquérir des produits complémentaires. Hein, c'est ce qu'on appelle les coûts de changement ou encore les coûts de transfert, hein, d'une technologie à l'autre. Alors, on avait cité cet exemple-là quand on avait parlé dans la partie sur Sony, du passage du DVD au Blu-ray. Hein, on avait dit, bah, OK, donc il y a le prix du lecteur Blu-ray qui est déjà en lui-même supérieur à celui d'un lecteur DVD. Mais alors, en plus, pour en profiter, il faut un téléviseur haute définition. Donc vous voyez que tout d'un coup, le coût de passage de votre lecteur DVD au lecteur Blu-ray, c'est plus seulement l'achat du lecteur Blu-ray, mais c'est aussi l'achat d'une nouvelle télé. Et puis, bah, si vous voulez tout de suite en profiter, vous allez acheter vos films préférés en Blu-ray. Alors que peut-être vous les avez déjà en DVD, mais c'est pas pareil. Si vous voulez profiter pleinement de la qualité, vous allez remplacer vos DVD en moins partie par des Blu-ray. Et donc, bah, vous voyez qu'au total, ça vous aura coûté beaucoup plus cher que simplement le prix du lecteur Blu-ray. Et puis vous avez un coût en temps. Hein, de temps en temps, j'imagine que vous changez de smartphone ou d'ordinateur. Pas trop souvent, j'espère, parce qu'écologiquement, ce n'est pas excellent. Mais ce que ça va vous coûter tout de suite, outre l'argent, ça va être du temps. Hein, à chaque fois que vous avez un nouvel ordinateur, il va falloir réinstaller Windows, etc. C'est encore beaucoup plus net, évidemment, quand vous êtes en B2B, hein, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est valable aussi en B2B. Et typiquement, bah, vous changez les machines dans un atelier. Il est évident que vous allez devoir arrêter l'atelier. Vous allez devoir passer du temps à enlever les anciennes machines. Alors, si elles sont très lourdes, bien boulonnées au sol, etc., c'est pas en un quart d'heure, hein, que vous allez le faire. Et ensuite, souvent, vous allez en profiter pour faire un nettoyage à fond. Bon, ça, c'est un petit bonus. Et après, il va y avoir du temps pour installer les nouvelles machines. Si bien que vous allez peut-être avoir une semaine, plus fréquemment plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, pendant lesquels votre atelier ne va plus rien fabriquer. Et vous voyez que là, le coût, il peut très vite monter. Et puis, vous avez également un coût d'apprentissage. C'est-à-dire que souvent, quand vous utilisez une nouvelle technologie, vous n'allez pas tout de suite l'utiliser de la manière la plus efficace possible, parce que vous êtes habitué à l'ancienne. Il n'a pas été rare, hein, que, par exemple, sur des lignes de fabrication, quand on mettait en place des nouveaux robots plus sophistiqués, censés être beaucoup plus performants que les anciens, au bout du compte, la productivité, dans un premier temps, baissait. Parce que, comme les opérateurs sur les lignes n'étaient pas habitués au fonctionnement de ces robots-là, ils faisaient plus d'erreurs. Du coup, la ligne de fabrication s'arrêtait plus souvent. Si jamais vous avez un robot qui va 10% plus vite que les anciens, mais que vous êtes arrêté 15% de temps en plus par rapport à avant, vous produisez moins. Donc ça, c'est pour le coût. Maintenant, du côté du risque, il y en a plusieurs. Alors, le risque qui est peut-être le plus évident, hein, c'est le risque que le produit ne remplisse pas les fonctions pour lesquelles on l'a acheté. Donc, concrètement, quel est le lien avec l'innovation? C'est que souvent, un produit très innovant, il n'a pas été testé à très très grande échelle. Il embarque souvent des sous-systèmes qui eux-mêmes n'ont pas été testés à très grande échelle, etc. Si bien qu'en moyenne, un produit hautement innovant va souvent être moins fiable que le même produit 3 ou 4 ans plus tard. Donc, votre risque fonctionnel est augmenté si vous achetez un produit innovant qui vient juste de sortir sur le marché. Deuxième type de risque, le risque pour sa sécurité, hein, le risque physique. Alors là, de ce point de vue-là, le côté innovation, on va dire, peut jouer de deux manières. L'impact est un peu. On sait que certaines innovations sont dangereuses ou se sont révélées dangereuses. Mais de ce point de vue-là, ça peut créer effectivement un frein au départ parce que certaines personnes vont se dire bah, ça n'a pas été suffisamment testé. Penser que. Bah, aux réactions de certaines personnes au moment de la sortie des vaccins à ARN messager. Et peut-être de certains d'entre vous, hein, il n'y a pas de jugement de ma part sur le. Mais ça a été de dire, bah, ça n'a pas été testé, il n'y a pas eu les études cliniques habituelles, ça a été plus court, ça n'a pas été testé à grande échelle, donc c'est peut-être dangereux. Et donc bah, certains ont refusé de se faire vacciner parce qu'ils craignaient un risque physique. Donc ça, c'est bien une innovation qui a créé chez certains une certaine anxiété parce qu'elle n'avait pas été testée à grande échelle. Là où ça peut être nuancé, c'est qu'il arrive aussi parfois qu'une innovation ne soit pas perçue comme dangereuse au moment où elle arrive sur le marché et qu'on s'aperçoive après coup qu'elle l'était. Alors ça a été le cas de pas mal de produits chimiques, hein, le glyphosate, au début, c'était une sorte de super miracle, ce nouvel herbicide. Puis voilà, maintenant, on en connaît les conséquences négatives. Mais il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Donc parfois, on n'est pas conscient du risque physique au début et il apparaît après. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus nuancé que dans les autres cas. Alors, de façon plus fine, en termes de consommation, il y a un autre risque qui est celui qui a quelque chose qu'on n'aime pas, c'est que même si finalement le produit répond à ce qu'on attendait de lui, même s'il ne nous explose pas à la figure, néanmoins on s'aperçoit que ce n'est pas le choix qu'on aurait dû faire. Et ça, on n'aime pas ça. Ça a un côté un peu humiliant parce que bah, voilà, on a pris une mauvaise décision. Donc, bah, il se trouve que quand vous avez une innovation majeure, et alors encore plus quand c'est une innovation qui crée un nouveau marché, vous savez que souvent, bah, avant qu'un dominant design ne s'établisse, bah, vous avez des grosses variations d'un produit à l'autre. Évidemment, qui dit des différences très importantes d'un produit à l'autre, dit évidemment un risque de se tromper fortement qui est plus important. C'est-à-dire, si demain vous voulez vous acheter un smartphone, bon, le risque d'opportunité est quand même assez limité, hein, parce que maintenant vous avez deux systèmes qui sont bien assis, ils ne vont pas s'arrêter demain, hein, ni Android, ni iOS. Les performances pour un prix donné sont quand même assez comparables. Bon, c'est un peu plus cher chez Apple, mais ça, c'est normal. C'est partie du système, mais c'est pas non plus totalement d'ordre de grandeur. Et donc bah, vous pouvez difficilement, entre guillemets, vous pardonnerez le terme familier, mais vous planter lourdement. Par contre, quand vous avez un produit qui est tout nouveau, bah, vous pouvez vous acheter une voiture électrique en 1905. Juste avant que la voiture à moteur thermique ne l'écrase. Vous pouvez vous acheter un lecteur plus près de nous, hein, un lecteur HD-DVD début 2008, juste avant que Toshiba jette l'éponge. Vous voyez? Bah, quand le produit est innovant, il risque de se tromper fortement et quand même plus fort. Et puis ça rejoint un peu. Alors c'est deux risques différents hein, du point de vue de marketing et psychologique, mais moi je les mets ensemble parce qu'ils se trouvent qu'ils sont, enfin, ils sont quand même dans le même type de mécanisme. Et puis du point de vue de l'innovation, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ça n'est pas sans lien non plus avec le risque d'opportunité. Le risque social, c'est lié au fait que normalement, la consommation a une fonction, ce n'est pas forcément sa principale, on peut l'espérer, mais elle a une fonction ostentatoire. Ça a été démontré depuis longtemps, c'est-à-dire que consommer, c'est aussi quelque part une façon de montrer son statut social, de montrer, pas seulement le statut d'ailleurs, hein, mais aussi de montrer par exemple qu'on est à la pointe de la technologie parce qu'on a le dernier gadget, etc. Donc c'est aussi un moyen de renvoyer une certaine image sociale. Et donc, alors quelque part, on joue d'ailleurs beaucoup de ça au niveau des innovations, hein. Vous vous souvenez, des innovateurs et des adopteurs précoces, hein, qui sont à la recherche de ça, de signes distinctifs via la technologie. Donc, l'innovation, enfin, ce n'est pas seulement un frein, l'innovation va beaucoup jouer là-dessus. Mais néanmoins, quand vous êtes au tout début de l'histoire d'une innovation, ça peut très bien se retourner contre vous. Et donc là, je peux reprendre mon exemple du lecteur HD-DVD que vous auriez acheté. Quelque part, en faisant ça, c'est une façon de montrer que vous êtes à la pointe de la technologie, etc. Peut-être même que vous avez invité vos voisins pour visionner un film pour leur faire plaisir, bien sûr, et parce que vous prenez beaucoup de plaisir avec eux, mais un tout petit peu, quelque part, inconsciemment, pour leur montrer que vous avez fait cette acquisition et que c'est bien mieux que leur vulgaire lecteur DVD de l'ancien temps. Et puis, du coup, quand un mois après, votre voisin vous invite à son tour, hein, chacun son tour, c'est normal, et vous dit triomphalement qu'il a acheté un lecteur Blu-ray et que il propose aussi de voir un film parce que celui-là ne sortira jamais en HD-DVD. Alors là, le côté, comment dire, valorisation sociale en prend un très gros coup, forcément. Et puis, alors le risque psychologique, c'est un peu le même mécanisme, mais sauf que au lieu de rechercher une forme d'estime ou d'image de la part des autres, c'est sa propre image, sa propre self-esteem, comme disent les anglo-saxons, qui est en jeu. Alors, donc là, c'est plus vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de soi-même. Il n'empêche que, dans mon cas, dans le même exemple, ça marche aussi, c'est-à-dire que quelque part, c'est peu valorisant que d'avoir fait une erreur de choix. Et c'est pour ça que ça rejoint aussi le risque d'opportunité. Mais ça le rejoint beaucoup dans le cadre d'une innovation, c'est pas forcément le cas dans d'autres cas, hein. C'est pour ça que par contre, il est tout à fait normal qu'en marketing, on les distingue clairement, hein. C'est pas. Donc voilà. Des freins qui, encore une fois, existent toujours, mais qui ont tendance à être exacerbés par le caractère fortement innovant d'un produit. Et dans le cas de la voiture électrique, ça ne manque pas. C'est-à-dire qu'on a effectivement un prix élevé. On a besoin d'acquérir des produits complémentaires. Hein, donc, il y a le prix de la voiture, mais il y a le prix de la recharge électrique en plus. Il y a un risque, le risque fonctionnel, c'est le risque de panne de carburant. Il y a un risque d'opportunité. Imaginons, vous achetez une voiture électrique en 2015 parce que vous dites ça va forcément décoller et de toute façon le gouvernement a dit que bientôt il y aurait 100 000 bornes de recharge en France. Et puis à ce moment-là, je sais pas, il y a un changement de gouvernement, il n'y a plus de priorité écologique d'un côté, de l'autre, les ventes ne décollent pas, donc au niveau privé, aucun intérêt à installer un réseau de recharge électrique, et du coup, vous attendez toujours 5 ans après le réseau sur lequel vous aviez parié. Là, ça peut être un risque d'opportunité de ce type-là. Des fois, ça peut être aussi parce que quand vous avez un produit qui est innovant, souvent, il y a des sauts de performance qui sont assez rapides. Et ça peut être aussi l'année suivante, un constructeur de véhicules propose des voitures qui ont des autonomies sans rapport avec la vôtre. J'avais aussi une autre. Ah oui, alors j'ai pas mis le risque physique, je peux vous dire, j'avais dit, j'évitais de raconter ma propre vie, mais il se trouve que c'est encore un peu trop cher, je suis un peu coincé, et puis comme j'ai un peu peur de la panne de carburant, j'étais plutôt sur de l'hybride rechargeable. Mais il se trouve que ma femme résiste un peu parce qu'elle me cite tous les cas de voitures électriques ou trottinettes électriques ou tout ça qui explosent ou qui prennent feu parce qu'elles sont restées branchées trop longtemps. Donc il peut quand même y avoir toujours la peur du risque physique. Et tous ces freins-là, en fait, ne seront levés que si les quantités vendues augmentent. Parce que si les quantités vendues augmentent, bah, il y aura des économies d'échelle et les prix vont baisser. Parce que bah, du coup, le réseau de recharge et de réparation va se développer. Et du coup, bah, le risque de panne de carburant, entre guillemets, diminue. Le risque que j'évoquais tout à l'heure de parier sur un développement du réseau qui n'arriverait pas, bah, comme il est déjà là, le réseau, vous n'avez plus ce risque-là, etc. Alors, son pari a-t-il été le bon ou pas? Votre avis?
Non.
Non, dit Jacqueline. Tout le monde est d'accord avec Jacqueline? Apparemment, tout le monde est d'accord avec Jacqueline. Ben, j'aurais tendance à dire oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont peut-être eu raison trop tôt. Donc effectivement, ça n'a pas marché. Je suis d'accord avec vous, Jacqueline. Ça ne leur a pas donné l'avantage du pionnier. Alors, j'ai préféré mettre l'avantage du pionnier dans un autre exemple parce que, bah, quelque part, comme les voitures électriques existaient déjà à la fin du 19e siècle, c'est compliqué de dire pionnier, mais néanmoins, à l'échelle où ils l'ont fait, Renault a joué les pionniers de la voiture électrique en Europe comme ils avaient joué les pionniers du monospace. Mais là, cette fois, c'est vraiment eux qui ont eu l'idée pour les voitures électriques. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils n'en ont pas profité de cet avantage du pionnier. Donc là-dessus, vous avez tout à fait raison. Par contre, sur le décollage, bah, je serais quand même un petit peu plus nuancé. Petit graphique. Lance-toi, graphique. Voilà. Il faut lui parler. Donc, voilà l'évolution des ventes 2010. Donc on voit qu'on est à des très faibles nombres. Hein. Et on voit que dans un premier temps, Renault semble bien en profiter puisqu'on voit l'augmentation des ventes de voitures électriques qui est presque parallèle, voire complètement alimentée par les ventes de la Zoé. En fait, la Zoé, à elle toute seule, à un moment donné, elle avait, je crois, 60% plus, voire plus de parts de marché des voitures électriques en France. Seulement, voilà. Le problème, c'est qu'en même temps que le marché va vraiment décoller, bah, la Zoé ne va pas en profiter. On voit même qu'elle va assez vite décliner parce que bah, tout simplement, elle est un peu dépassée. Hein. Alors, il y aura une suite à ce graphique dans les années à venir, c'est-à-dire que je compte mettre les ventes de la Renault 5, puisque c'est un peu le nouveau pari. Après, ils ont d'autres voitures électriques, hein, mais pour voir si la Zoé est un nouvel exemple d'échec aboutissant à un succès, parce qu'il arrive assez fréquemment qu'une entreprise lance un produit, que ce soit un échec, et que finalement, grâce à l'apprentissage qu'elle réalise du fait de cet échec, eh bien, elle arrive à mieux lancer des produits ensuite. Donc, est-ce que ce sera ça ou pas? Ou est-ce que bah, finalement, Renault a juste définitivement perdu son leadership européen sur la voiture électrique et que ça leur a surtout coûté beaucoup d'argent de s'être lancé trop tôt? L'avenir nous le dira, en partie, parce qu'on ne saura pas exactement ce qui provient d'ailleurs de l'apprentissage et d'autres choses. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un pari gagnant sur le plan stratégique et commercial. Donc, je suis d'accord avec Jacqueline. En même temps, par contre, sur l'idée que le marché allait finir par décoller, il faut bien dire que bah, il a quand même décollé. Mais pour autant, malgré l'échec hein, de la Zoé, in fine, Renault n'a pas du tout baissé les bras hein, et reste quand même une entreprise qui veut se montrer à la pointe en matière d'électrique. C'est pour ça que je vous dis, la situation actuelle, est-ce que c'est juste un passage à vide ou est-ce que c'est... ils n'ont pas profité du fait d'être partis premiers. Parce que d'une part, ils ont filialisé en partie leurs activités thermiques d'un côté, électriques de l'autre. Donc, ils ont créé la partie thermique est devenue une co-entreprise avec un constructeur chinois dans l'optique que si ça se confirme qu'il n'y a plus du tout de vente de voitures thermiques en Europe. Que vous savez que là, il y a pas mal de lobbying pour essayer de repousser ou de voilà. Mais si jamais ça se confirme, c'est vrai que comme c'est une entreprise qui est quand même avant tout européenne dans ses ventes, même s'ils sont aussi en Amérique latine, etc. Mais c'est pas une entreprise totalement globalisée qui vendrait de façon à peu près équilibrée dans le monde entier. Et du coup, ça n'aurait effectivement plus trop de sens pour Renault d'avoir leur activité moteur thermique. Et puis par contre, ils ont une filiale en paire. Alors, je ne sais plus si elle est à 100% ou si elle est avec un énergéticien. Je me souviens plus. Mais toujours est-il que c'est une façon de montrer qu'ils font toujours le pari de l'électrique. Et puis ils ont lancé des objectifs dont le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très ambitieux, hein. Réduction des coûts de 40% 2027-2028, c'est quand même très bientôt. Une gamme de 7 véhicules. Alors il y a déjà la Mégane E-Tech, la Scénic E-Tech peut-être. La Renault 5, on commence elle est disponible en commande pour l'instant. Je ne crois pas qu'elle roule, pas massivement. Après, il va y avoir cette drôle de Renault 4 qui ne ressemble pas vraiment à une Renault 4. Hein, mais bon, c'est le sorte de mini Jeep là, ou mini SUV, d'ailleurs, qui sera plus gros que la R5, ce qui n'était pas le cas de la R4. Mais bref. Et puis, un objectif d'un million de véhicules vendus en électrique hein, en 2031. Donc, voilà ce qu'ils ont annoncé. Ça me paraît très ambitieux, mais en tout cas, ça montre que, ils ne baissent pas les bras face au passage à vide qu'ils ont actuellement. Un passage à vide qui, d'ailleurs, a un petit peu à nuancer, parce que là, je crois que sur les derniers... les derniers mois, il y a la Dacia Spring électrique, qui est du coup la moins chère des voitures électriques, qui a l'air de pas mal se vendre aussi. Et Dacia, c'est Renault aussi. Donc, c'est Ampère qui est derrière. Donc voilà, à suivre. Mais c'est clair qu'ils avaient espéré un décollage plus rapide. Hein. Pour une fois, je n'ai peut-être pas dépassé. Déjà 2 h 30, c'est déjà pas mal. C'était là où je m'étais dit, il faut que j'arrive au moins là. Donc, je ne prends pas de retard non plus. Et puis, on ne va pas démarrer une nouvelle partie maintenant, alors qu'on arrive à l'heure de fin. Donc, je vous propose d'arrêter là. Je vais arrêter l'enregistrement. Évidemment, si vous avez des questions... N'hésitez pas, je...